Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue est l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mouni.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de réseaux sociaux créés pour faciliter une communication rapide entre les humains. Dans le monde, les réseaux sociaux sont devenus de nos jours un phénomène très inquiétant pour l'éducation des enfants. Fait pour permettre aux enfants d'apprendre et de communiquer, cet outil de communication est aujourd'hui utilisé à d'autres fins. Quelle est la responsabilité des parents et dirigeants face à une telle situation? Nous allons débattre dans ce Grand Dialogue avec Dr Bremel Idiko, sociologue, professeur à l'Université du Mali, Babada Kono, juriste, chercheur, Jimmy Kanté, activiste et membre de l'association Global Santé et Solidarité, Abdoulaye Guindo, journaliste, blogueur. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Aujourd'hui, on constate de plus en plus que l'utilisation des réseaux sociaux joue sur l'éducation, la société. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Nous allons commencer avec vous, Monsieur Kanté.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui explique ce phénomène?
Bon, et moi je pense qu'il y a beaucoup d'explications par rapport à ça. D'abord, il faut voir notre éducation, l'éducation des jeunes maliens. Les réseaux sociaux sont un phénomène nouveau pour nous. Et chaque fois que nous avons quelque chose de nouveau, vous avez vu avec Internet, l'utilisation, d'abord avant même ces réseaux sociaux-là, le simple fait d'avoir un ordinateur, on faisait des usages souvent pas très bien. Et avec les réseaux sociaux, donc chacun y vient avec une certaine éducation, donc il est forcément... on voit beaucoup de choses, des choses qui sont très bien et d'autres qui ne sont pas du tout vraiment jolies.
D'accord. Alors, Monsieur Diko, que pensez-vous de cette situation?
Écoutez, les réseaux sociaux, c'est un phénomène relativement nouveau qui est un phénomène mondial. Ce n'est pas seulement africain. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas réduire toutes les tares que nous observons dans nos sociétés, en fait, à l'utilisation ou non des réseaux sociaux. Tout ce qui est nouveau attire, ou bien on peut développer des facteurs de répulsion envers, donc dit à différentes méfiances. Mais nous sommes dans un monde où les technologies se développent et les réseaux sociaux sont un autre canal de sociabilité. Maintenant, l'usage qu'on en fait peut faire en sorte que nous tombions dans des travers ou que bon, nous en fassions en fait un autre usage éducatif. Donc tous ces aspects-là, nous pourrons les aborder dans le cadre du débat.
Alors, et vous, M. Dacono, qu'en dites-vous?
Je pense que déjà, les réseaux sociaux, en partie, sont une vitrine. Les réseaux sociaux nous montrent une facette de comment nous vivons en société et comment nos rapports sont. Je rejoins Jimmy sur le fait que, autant on ne peut pas dire que tout est mauvais au niveau des réseaux sociaux, autant on ne peut pas également dire que tout est bon. Mais cela n'est pas forcément lié au réseau social, mais cela est lié à notre... comment on vivait en société. Et justement, l'un des avantages des réseaux sociaux, c'est que finalement, ça a cassé cette barrière. On était dans des sociétés où, entre certaines générations, il y avait une forme de barrière. Mais sous le réseau social, qui n'existe plus, les barrières sont tombées. Et une autre barrière, au-delà de celle qui existe entre les générations, était celle de pouvoir parler, celle de pouvoir s'exprimer ou celle de pouvoir partager avec les autres ce qu'on ressent. Et finalement, on n'a plus cette barrière avec les réseaux sociaux. Il y a cette capacité à dire ou à expliquer des choses qu'on n'aurait pas eu si on était dans un cadre plus physique. Donc finalement, en plus d'être révélateur de ce que nous sommes en société, ça amplifie certains comportements parce que ces barrières n'existent plus.
D'accord. Et vous, M. Guindo, quelle est votre observation par rapport à cette situation?
Moi, mon observation, je classe les réseaux sociaux dans la catégorie des sciences et la science et la morale. Et les réseaux sociaux, au départ, n'ont pas été créés pour ces dérives. Mais c'est l'usage que nous en faisons. Je l'ai dit, je ramène tout ça à l'éducation. Par exemple, sur ce plateau, je vois des gens qui utilisent beaucoup les médias sociaux, mais je ne les ai jamais vus utiliser des écarts de langage. Chacun vient sur ces réseaux sociaux avec son éducation. Voilà pourquoi on a toujours appelé à encadrer, éduquer, sensibiliser.
Voilà. Alors, Monsieur Dacono, pourquoi un revirement de situation comme ça, vu que c'était venu pour faciliter la communication, mais d'un coup, il y a eu des dérives?
Ben, même les dérives souvent facilitent la communication. Je suis pas forcément de ceux qui pensent qu'il faut choquer pour éduquer, mais je pense que même les dérives, il y a une leçon à apprendre, même des dérives, il y a des enseignements qu'on peut toujours tirer. Mais encore une fois, on peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des dérives, même avant les réseaux sociaux, il y avait quelques dérives. Encore une fois, il y a cet effet amplificateur des réseaux sociaux. Dans le quartier, il s'est passé des événements, mais ça restait dans le quartier parce qu'il n'y avait pas moyen de transposer ou de diffuser ce qui se passe. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans ta maison, souvent, toi-même, tu apprends quand tu es dehors de la maison, toi, tu l'apprends sur les réseaux sociaux. Donc, il y a cet effet amplificateur qui nous donne l'impression que tout est dérive sur les réseaux sociaux, mais cela ne doit pas être parce qu'il y a également des aspects positifs. La communication est beaucoup plus importante. Et moi, je sais de là où je suis ce qui se passe dans certains milieux hospitaliers grâce à l'engagement de certains activistes. Je sais ce qui se passe dans le milieu scolaire parce qu'il y a certaines personnes qui y parlent. Mais ça, ce qu'ils disent n'est pas forcément nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est le partage de cette information. Donc, d'un point de vue communication, il y a toujours des aspects très, très positifs et les dérives, à mon sens, n'occulte pas la valeur ajoutée des réseaux sociaux en matière de communication. Et ces dérives-là ont toujours existé. Il y a un effet amplificateur. Et comme Guindo le disait tout à l'heure, c'est que chacun vient avec sa trajectoire, son histoire et son mode de vie sur le réseau social. Et le réseau social ne change pas forcément notre mode de vie, mais il amplifie, il montre aux autres ce que nous sommes véritablement.
D'accord. Alors, Monsieur Kanté, que pensez-vous des propos de Monsieur Lacono?
Je pense qu'il a totalement raison. Je suis d'accord avec lui, je suis également d'accord avec M. Guindo quand il parle de l'éducation. Vous savez, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, nous avons des ordinateurs, nous avons par exemple la Bible, nous avons le Coran. Et lorsque vous ouvrez le Coran, vous pouvez aller chercher ce qu'il vous faut, peut-être pour votre confort personnel. Mais il y a aussi dedans des choses que vous pouvez trouver pour nuire. Et tout ce qui vient sur les réseaux sociaux vient avec une éducation. C'est l'usage que nous en faisons généralement. Et si vous venez avec vraiment l'envie de nuire à d'autres ou de dénoncer ou peut-être de faire comprendre les dérives peut-être de notre système éducatif, de notre système sanitaire ou tout simplement les difficultés que nous avons dans notre société, je pense que vous pouvez vous en servir et de la manière la plus belle. Mais si vous venez aussi sur les réseaux sociaux avec une très mauvaise éducation, au fait, le réseau social ne fait pas de quelqu'un ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire on vient avec notre éducation, on vient avec notre façon de vivre. Et avant, on avait ces informations qu'à travers les médias d'État, qu'à travers les médias internationaux. Mais aujourd'hui, vous avez la chance de passage d'être témoin oculaire d'un événement et tout de suite l'événement se retrouve un peu. Et vous avez la possibilité, vous, citoyen lambda, simple étudiant, de donner une information et de suivre aussi vraiment l'évolution, de suivre combien de personnes ont vu, combien de personnes ont aimé. Et ça vous donne toujours envie de mieux faire. Je pense qu'il y a seulement un petit problème, peut-être qu'on en parlera dans le débat, c'est l'encadrement des autorités. Parce que je me dis que nous sommes sur ces réseaux sociaux, nous faisons tout le temps des dérives. Et ça commence toujours par juste un petit mot déplacé, ensuite une injure et plus tard une dénonciation calomnieuse, on laisse faire. Et au fur et à mesure, ça devient très difficile. Et tout le monde dit, ah voilà, celui-là, il a dit ceci, il ne s'est rien passé, donc moi aussi, je peux faire autant. Donc je pense que au lieu de laisser ces jeunes que nous sommes, et vraiment aller sur les réseaux sociaux, il faut peut-être d'abord une petite formation, essayer de nous encadrer, faire comprendre que il y a les réseaux sociaux certes, mais sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout mettre, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire. Donc tant que les autorités ne feront pas ce travail-là, on va droit au mur.
D'accord. Alors, Monsieur Dico, pour certains, les réseaux sociaux sont devenus une arme pour les hommes politiques, pour détruire les adversaires. Certes, disons. Qu'en est-il?
Mais écoutez, déjà, tout ce qu'ils disent, en fait, on est dans la même veine. C'est une vitrine, comme ils l'ont dit. Chacun en fait l'usage qu'il veut en faire. Et on diffuse maintenant ce qu'on appelle des fake news. Donc, c'est de la désinformation, de mauvaise information, juste pour dénaturer. Et souvent, il y a même des films, toutes se fabriquer comme ça, de toutes pièces, mais l'idée, c'est de nuire en tout cas à l'autre. C'est vrai qu'on retrouve un peu de tout cela. Malheureusement, tout ça, comme ils l'ont dit, repose sur la question de l'éducation. Il y a des choses qu'on nous enseignait dans nos familles. Les familles, pour la plupart, ont démissionné. Le système scolaire n'est plus, en tout cas, ce qu'il était. Nous fabriquons plutôt des chômeurs que des cadres bien formés. Et l'éducation communautaire a tendance à se dissiper. Donc, on a développé le culte de l'individualisme. Malheureusement, nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est l'instantané, où c'est le culte de la personnalité, où c'est les gens qui veulent se faire voir. C'est pour ça que de plus en plus, même si certains sont bien éduqués, il y a souvent l'effet d'entraînement. Parce qu'il y a quelques copines qui ont fait ça, parce qu'un politicien a fait ça dans tel autre pays, ça a marché. Et moi aussi, au niveau de mon pays, j'essaie de faire ça parce que j'estime que c'est le seul moyen de pouvoir dénigrer l'autre. Et en dénigrant l'autre, donc on peut, c'est ici en fait au sommet en tout cas, ou avoir voix au chapitre. Tout cela dénote d'une certaine crise morale dans nos sociétés où finalement c'est le paraître qui compte, ce n'est plus l'être dans sa quintessence, dans l'être qui apprend à se connaître et qui respecte l'autre et qui sait en réalité où il y a des limites. C'est pour ça que de plus en plus, même les hommes politiques tombent dans ce panneau, ils créent des pages, non pas seulement pour parler de ce qu'ils font, il y en a qui font ça très bien, mais il y a d'autres aussi qui passent leur temps à dénigrer les autres et même à ne pas avoir la simple humilité de reconnaître le peu de bien que l'autre fait. Et ils passent leur temps en fait à déconstruire. Mais en retour, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y a aucune proposition crédible dans bien des cas. Et tout cela peut nuire, qu'on le veuille ou non, à l'image en fait de tout un pays, parce qu'on va dire, mais finalement, cette classe politique, elle se résume, en tout cas, à ces informations-là qu'on voit sur Internet. Et c'est pour ça qu'il est urgent, comme ils l'ont dit, hein, d'encadrer tout cela et de faire en sorte que, bon, les filles ne soient plus seulement dans les toilettes pour prendre des photos, que la dernière coiffure n'est pas véhiculée et que, bon, de toute façon, on assiste même à des mutations, parce que Facebook, qui était un réseau qui a eu ses heures de gloire il y a quelques années, qui a plus d'un 2 milliards maintenant d'abonnés commencent à tomber un peu en désuétude, en tout cas auprès des premiers utilisateurs. Tous ceux qui ont déjà fait 5 ans sont en train d'aller vers d'autres réseaux où ce sont des images qu'on peut véhiculer pour une journée sur Instagram ou sur d'autres réseaux, j'ai oublié les noms. Et puis, vite fait, on fait même des vidéos bizarres et on partage, en fait, on a l'impression qu'on est en privé. Mais sauf que quand vous partagez, vous perdez le contrôle. À la fois, celui qui a créé le système, il peut garder l'information et venir le sait ce que vous serez. Et puis, au pire des cas, votre ami peut être votre ennemi. Et ça, c'est encore pire parce que, comme on dit, il faut se méfier de ses amis parce que vos amis savent tout de vous. Et donc, dans ces cas-là, on peut effectivement voir des conséquences désastreuses des réseaux sociaux.
D'accord. Alors, Monsieur Guindo, qu'en pensez-vous?
Bon, pour un peu rejoindre Monsieur Ilidiko, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un peu mal utilisés face à ces dérives, comme il a dit il y a... Il y a un risque à utiliser ces médias sociaux. Donc, chaque fois que vous devez cliquer sur un bouton, faites extrêmement attention. Mmh. Et ce qui est grave, surtout dans nos États, lorsque nous nous inscrivons sur Facebook, et on ne prend pas le temps de lire les conditions. Ouais. C'est-à-dire, tout ce que vous mettez sur les médias sociaux reste à jamais. Mmh. Facebook, chaque année, paye des serveurs pour garder nos données. Mmh. Vous supprimez une publication, vous avez l'impression qu'elle est supprimée, mais en réalité, elle est là. Donc, face à cette dérive, c'est à nous, chacun, de se protéger, de protéger sa vie, de protéger ce que nous faisons. Chaque fois, je dis aux gens, avant de cliquer sur un bouton sur Internet, il faut réfléchir à 1 million de fois. Et il ne faut jamais aller sur un réseau social sans d'abord lire les conditions d'utilisation. C'est ce drame-là qu'on a, surtout dans nos pays.
D'accord. Voilà. Alors, Monsieur Dekono, selon vous, se situe la responsabilité de ces dérives-là?
Déjà, il va falloir qu'on se mette d'accord sur les dérives.
Okay.
Comme tout le monde, je juge certaines de ces dérives non acceptables. Mais après, je suis de ceux qui estiment que ces dérives font partie de l'ordre des choses, de l'ordre des évolutions. Encadrer des rapports personnels, j'ai un peu de réserve par rapport à ça, parce que les réseaux sociaux sont fondamentalement pour créer des liens individuels. Je crée un rapport avec Guindo sur le réseau social, on entretient une amitié, on décide de la direction qu'on veut donner à notre amitié. Dans ce sens, comme dans le sens du droit civil en général, des règles peuvent être mises en place en général. Mais je ne pense pas qu'on doit aller jusqu'au sens, au terme de la censure. Mais je vais rebondir sur ce que Guindo a dit tout à l'heure sur la dimension... le dernier propos de Guindo tout à l'heure sur le fait que finalement, est-ce qu'on lit les conditions d'utilisation. En fait, il y a lire et comprendre. Certainement, on lit tous, mais est-ce qu'on comprend tous les implications? Je donne juste un exemple sur le fait qu'on installe pour la plupart les liens d'accès à ces réseaux sur nos mobiles, sur le téléphone par exemple. En l'installant et en l'ouvrant pour la première fois, l'application nous demande est-ce qu'on autorise l'accès à notre répertoire. On autorise l'accès, ce qui est très grave et dangereux, à notre microphone et à notre caméra. C'est-à-dire que tant qu'on est connecté sur le réseau, on donne accès au serveur de Facebook d'enregistrer nos conversations privées. Mais ça, par contre, on peut lire ou ne pas le comprendre parce que ce n'est pas explicitement dit. Donc, au-delà de la lecture simple, il y a aussi la compréhension des implications de tout ce qu'on fait. Et aujourd'hui, il est difficile, sauf si en mettant le téléphone sur sa commode la nuit, on l'éteint carrément. Même là, je ne suis pas sûr qu'on est sauvé. Donc, c'est vis-à-vis de l'utilisateur ou de celui qui émet le réseau social, il y a certes une connaissance et une culture qui doit être là, mais en termes de régulation, c'est peut-être là où on est face à un challenge d'un point de vue juridique. Maintenant, comment faire pour réguler d'une façon distincte les réseaux sociaux, réguler la presse autrement, parce que la presse également, elle est double. On a l'audiovisuel, on a également la presse écrite. Si vous vous rappelez le débat il y a quelques années, c'était est-ce qu'il fallait avoir la même régulation pour la presse écrite et pour la presse audiovisuelle, parce que les caractéristiques sont différentes, les moyens d'utilisation sont différents. Et c'est la même chose pour les réseaux sociaux, parce que l'objectif est différent d'une personne à l'autre. On peut avoir des règles de base, des règles générales, mais il y a certains niveaux qu'on ne peut atteindre en matière de sous couvert de la volonté de régulation des réseaux sociaux, sinon on serait revenu à des années en retard par rapport à toutes les garanties qu'on doit offrir en termes de liberté individuelle.
D'accord. Monsieur Kanté, vous voulez réagir?
Oui. Bon, au fait, moi je pense que par rapport au propos de Baba Dakono tout à l'heure là sur l'utilisation que nous faisons des réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas tellement d'accord du fait que beaucoup de gens disent que les réseaux sociaux sont mauvais, c'est pas bon. Vous savez, en réalité, tout ce que nous voyons aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est notre mode de vie. On le fait. Et tout le monde le sait. Mais c'est seulement avec les réseaux sociaux qu'on sait que cela se faisait. Vous vous souvenez très bien qu'il y a un moment, il y a des jeunes filles qui passaient sur les réseaux sociaux pour expliquer certaines choses. C'est fréquent, ça se fait, tout le monde le sait et personne ne dit rien. Et lorsqu'on les voit sur les réseaux sociaux, on fait semblant comme si on ne le savait pas. Nous voyons des vidéos pornographiques, ça se fait tout le temps, partout, tous les jours. Personne n'en parle, on fait semblant comme si nous sommes bons. Au fait, les réseaux sociaux permettent juste de montrer notre mode de vie. Et tout ça, c'est bien, parce que ça nous pousse à prendre conscience du danger qu'il y a. Et tant qu'on n'arrive pas à diagnostiquer un mal, il est très difficile vraiment d'apporter des solutions. Aujourd'hui, nous avons ce plateau parce que nous avons compris qu'attention, il faut que nous nous ressaisissions. Ce que nous sommes en train de faire, on va directement à notre perte. L'utilisation que nous sommes en train de faire. Donc, chacun a son niveau de responsabilité. Moi, je viens d'entendre des choses ici très intéressantes par rapport aux conditions d'utilisation des réseaux sociaux. Je n'ai jamais lu. Moi, je ne lis pas. Même si vous partez à EDM ou vous partez à, comment dire, à la Soutellement ou quoi, on vous donne un contrat généralement, on signe. De très petits caractères. Donc, on ne prend pas le temps de lire. Même si on lit, on ne comprend pas, on est pressé, on signe, on s'en va. Donc, je ne savais pas que j'avais autorisé à Facebook à accéder à ma caméra ni à mon microphone. Baba Dakono vient de me l'apprendre. Donc je dois savoir que l'outil que j'ai en main aujourd'hui est dangereux. Mais c'est pas au fait cet outil qui décide mon comportement. Moi je viens avec un comportement. Cet outil permet vraiment à l'administration, aux autorités maliennes de savoir attention, il y a des gens qui font des choses qui ne sont pas bien et c'est vers ça que nous sommes en train d'aller. Donc ça leur permet de prendre des dispositions. Malheureusement, chez nous, le laxisme, le laisser à aller à atteindre un tel niveau que rien ne surprend plus personne et tout le monde, il y a ça aujourd'hui encore, il y a ça aujourd'hui. Donc, alors que tous tous les jours, nous savons très honnêtement que nous ne sommes pas bons. Nous faisons semblant et nous essayons d'envoyer une autre image au reste du monde, comme nous sommes un grand peuple, un peuple de musulmans, alors qu'au fond, en réalité, nous sommes très mauvais. Donc les réseaux sociaux permettent juste de faire comprendre à tout le monde que ça ne va pas. Et il faut qu'on se réfléchisse. Je pense que c'est vers ça que vous êtes en train de travailler et c'est une excellente chose.
D'accord. Oui, M. Diko.
Non, simplement ce qu'ils ont dit, nous sommes dans une situation effectivement où les réseaux sociaux sont une sorte de photographie de la réalité sociale. C'est comme les feuilletons que vous regardez, les feuilletons américains ou de brésiliens, mexicains ou africains. Ce sont des reflets de la réalité. Et donc, c'est une opportunité même, je pense, pour l'État et en tout cas pour tous les décideurs de voir facilement, même sans faire de grandes enquêtes sociologiques, une image, une certaine image de quelle est notre jeunesse aujourd'hui, de quelle est notre société, en tout cas, quels sont ses ressorts et comment les gens circulent. Mais au-delà de ça, il est vrai que nous sommes dans un monde connecté où les gens ont besoin d'informations, où les gens ont besoin de cadres, d'expression. Et ces réseaux sociaux, comme disait Baba Dakono, offrent cela. Nous sommes dans une société où avant, le fait qu'elle soit hiérarchisée, les jeunes étaient certes représentés au conseil villageois, mais c'était un représentant, et les femmes étaient représentées aussi au conseil villageois. Donc vous aviez voix au chapitre quand on vous consultait, vous donniez votre avis, mais consulter ne veut pas dire que ce que vous avez dit ne va être appliqué. Mais au moins, ces réseaux, donc, vu que nos sociétés initiatiques, en réalité, sont parties, en tout cas, en faillite, pour différentes raisons, les gens ont un autre canal, ou même des canaux, parce qu'il y en a plusieurs maintenant, d'expression, de se défouler, mais aussi de s'informer en temps réel sur ce qui se passe, à la fois dans le monde, mais aussi dans le pays. Et ça, quelque part, c'est quelque chose à encourager. Maintenant, il y a la question de l'encadrement qu'ils ont dit, et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est un défi que nos canaux traditionnels de socialisation puissent utiliser les réseaux sociaux comme étant une opportunité, un moyen de véhiculer des contenus éducatifs. Parce que la télévision, elle seule, nos télévisions, en tout cas d'État, sont peut-être les dernières chaînes regardées. Et c'est pour ça que nous orientons vers d'autres personnes. Ça veut dire que les gens ont besoin d'autres contenus que nous ne véhiculons pas. Et donc, pourquoi ne pas profiter justement de ces réseaux pour en faire aussi d'autres mécanismes de socialisation et d'éducation, en tout cas, voilà, de la personne.
Vous venez de parler des opportunités, mais récemment, on a été témoin de vidéos compromettantes sur Facebook et d'autres réseaux. On aimerait savoir quel peut être l'impact social dans le pays.
Alors, il y a déjà le viol est un phénomène qui a tout le temps existé et qui existe dans beaucoup d'autres pays. Avant-hier, ou c'est hier même, j'écoutais sur le RFI le matin, qu'au Kenya, pratiquement 24% des femmes ont déjà été violées. Donc, ce qui est énorme. Au Mali, malheureusement, il n'y a pas d'enquête et les chiffres, de toute façon, font toujours défaut. Et nos statistiques, dans beaucoup de domaines, ne sont pas forcément renouvelées. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène social réel. Mais malheureusement, quand ça arrivait, s'il n'y avait pas de réseau, donc cet effet amplificateur, c'est toujours le moussalaha, c'est-à-dire qu'on saupoudrait un peu la vérité. Et puis les parents venaient, on disait, bon, c'est déjà arrivé, c'est de l'eau versée, on ne peut pas, etc. Donc, on arrivait à contenir la situation et la victime vivait dans une sorte de traumatisme personnel, et puis ça pouvait avoir un impact sur elle en termes d'estime de soi et en termes de développement personnel. Maintenant, ces réseaux, le fait que ça soit véhiculé en soi, l'impact est réel. C'est d'abord, ça ternit l'image du pays. Parce qu'on va dire, ah ben tiens, les Maliens, maintenant, non seulement ils sont en insécurité, ils sont tombés tellement bas qu'ils commencent maintenant à violer les filles. Donc ça, c'est déjà l'image que ça peut renvoyer au niveau international. Mais il y a un impact sur la victime. Parce que lorsqu'on est victime, quand on est violé et qu'il n'y a que le bourreau qui le sait, qu'il n'y a que moi qui le sais, éventuellement, je peux supporter le coup. Mais quand c'est fait et qu'on voit mon visage, le monde entier me voit, je deviens une sorte de télé là que les gens voient. Donc ça peut créer même des traumatismes psychologiques, et puis ça peut donner une mauvaise image de soi, ça peut renvoyer, finalement la personne peut être une personne diminuée mentalement, et puis même peut être quelqu'un qui n'a plus envie de vivre des choses comme ça. Mais au-delà de ça, ça explique d'une certaine manière où est-ce qu'on en est arrivé en termes d'impunité, parce que s'il y a ce viol-là, ce viol a été commis par des jeunes qui étaient lucides, en tout cas entre guillemets, et il y a eu d'autres viols avant. ils sont au courant de ça, tout le monde est au courant, mais peut-être que les bourreaux n'ont pas été condamnés à hauteur de souhait, ils n'ont pas retenu la leçon, et donc les gens se disent, bon, de toute façon, je peux faire ce que je peux, ce que je veux, et puis, comme on dit en bambara, fouette et boala, donc en tout cas, rien n'adviendra, et donc ça peut, ce sentiment d'impunité pousse les gens à tomber dans beaucoup de travers. Voilà, au-delà de la question d'éducation qu'on a évoquée.
D'accord. Monsieur Dakono, vous voulez réagir au propos de Monsieur Rico ?
Réagir, dire que je suis d'accord, oui, je suis d'accord avec une très bonne partie de tout ce qu'il a dit. Mais je reviens à votre question initiale sur justement ces vidéos pornographiques qu'on publie sur les réseaux sociaux. Il y a deux dimensions. Dico a beaucoup parlé de la première dimension qui est vis-à-vis de la victime. Mais l'autre dimension, et c'est là où on va se rejoindre sur l'encadrement juridique nécessaire, c'est les utilisateurs eux-mêmes. C'est aujourd'hui, on n'a pas un contrôle formel de l'accès aux réseaux sociaux. Ça veut dire que ma fille de quelques années peut avoir accès à un réseau social et je ne voudrais pas qu'elle tombe sur des images pornographiques. Donc, en fait, il y a tout ce que la victime peut subir et je partage ce que Dr Dico a dit sur ça, mais il y a également ce que les utilisateurs peuvent subir. Au-delà des mineurs, il y a également des personnes qui ne veulent pas voir ces images-là. Comment on fait pour que... je sais que si on parle de Facebook, le promoteur a pris des dispositions pour pouvoir masquer ou supprimer des vidéos à caractère pornographique ou d'autres types. Mais il y a aussi, par la télévision, on a tout un encadrement pour protéger les personnes mineures et d'autres personnes face à certaines images. Et comment on le fait sur les réseaux sociaux, c'est une question à prendre en compte et il nous faut trouver des réponses très rapidement. Et en plus de ça, il y a deux sous-dimensions que je voudrais évoquer. La première, c'est qu'on est dans un contexte où finalement, ce que les gens pensent, c'est trouver leur bonheur dans la misère des autres. Donc, tant qu'on détruit l'image de quelqu'un, on pense que, bon, au moins la personne est plus minable que je ne suis. Donc, cette volonté de détruire les gens participe à ce phénomène massif où les gens passent leur temps à casser le dos sur le sucre des gens, à montrer une face minable d'une certaine personne. Et malheureusement pour nous, c'est devenu presque un phénomène de mode.
D'accord. Selon M. Dakono, ça devient pratiquement un phénomène de mode. En tant que blogueur, qu'avez-vous à nous dire par rapport à cela ?
Bon, et par rapport à ça, nous, on a toujours milité pour que les médias sociaux soient régulés. Je me rappelle avoir accompagné une association de professionnels des médias en ligne dans les bureaux du ministre de la Communication avec un projet de loi qui prendrait en compte tous les médias sociaux en plus de la presse en ligne. Bon, comme Dakono a dit, le ministre n'était pas tout à fait d'accord pour une loi spécifique.
Attention, à la presse. Que le ministre n'était pas
d'accord. Non, j'ai dit, c'est moi qui l'ai dit. Ça dit qu'il n'était pas. Lui, il voudrait que ça soit mis dans le champ de l'ancienne loi qui régirait la presse écrite et la presse audiovisuelle. Oh, il y a des spécificités, comme Baba Dakono l'a dit. On a proposé des lois sur calquées sur l'image du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Ça permet à l'État au moins de pouvoir contrôler un peu l'accès aux médias sociaux. Mais apparemment, l'État est un peu fermé à ça parce que, comme Dico l'a dit, eux aussi utilisent des pages cachées pour un peu attaquer leurs adversaires. Donc si c'est régulé, ils seront aussi frappés par cette régulation. Donc ils ne font pas franc jeu. Et tous les jours, c'est eux qui sont détruits. Ce qui fait que moi, si mon image sort sur Facebook nu, peut-être que ça peut et choquer ma famille et moi, mais ça fait plus mal du côté d'un ministre ou bien d'un homme politique. Donc c'est eux qui doivent prendre, comme on appelle, le dossier en main. Surtout que les médias sociaux relèvent du domaine international. Ils ne peuvent pas les empêcher, mais ils doivent réguler comment adapter les médias sociaux aux réalités maliennes. Ça, c'est la mission de l'État. Et ensuite, l'État sera accompagné par les autres acteurs. Mais apparemment, l'État prend du temps. Dans les autres pays, ils ont anticipé. Ils ont pris les taureaux par les cornes. Comme il y a même une police de la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, il y a une loi qui régit les médias sociaux. Mais au Mali, on tarde. On ne va même pas en parler.
Et pourquoi cela ?
Bon, parce que d'abord, comme quelque part, Baba Dakono avait raison, quand on parle de dérive, tout n'est pas dérive. Au fait, il y a une campagne d'intoxication contre les médias sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est un véritable contre-pouvoir face à l'aplatissement des médias traditionnels devant la volonté des hommes politiques, la jeunesse aujourd'hui arrive à mobiliser à travers les médias sociaux. Donc ça gêne un peu les hommes politiques. Donc il y a des choses qui ne sont pas des dérivés. Hein. Lorsque on dit par exemple sur Facebook qu'il y a eu tel ministre à détourner tel montant, ils vont dire qu'on l'a insulté. Quand on dit aux hommes sur Facebook, les hommes religieux ont fait ça, ils ne devaient pas le faire, ils se réunissent dans les mosquées pour dire qu'on a insulté. Or, les insultes ont commencé sur les radios ici. On a vu, voilà, les gens s'insulter, voilà, ça continue. Mais il n'y a pas eu de meeting autour de ça. Mais pourquoi un meeting autour des médias sociaux? Souvent, je me pose la question.
D'accord. Mmh. Et qu'à vous voir répondre à cette question, M. Kanté?
Là, moi, je suis partisan d'un excès de liberté plutôt que d'une restriction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, essayer de mettre une loi... vous savez, notre pays a ses spécificités. En voulant mettre cette loi, peut-être que on va en profiter pour une restriction de la liberté d'expression. Donc, il faut faire énormément attention. Mais ce que je voudrais surtout dire... Il y a M. Diko qui a parlé d'un aspect, l'image que nous envoyons au monde. Moi, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Vous savez, les images pornographiques que nous voyons là, ce n'est pas Facebook qui a fabriqué ces images. C'est-à-dire, c'est des choses que nous avons fait, mais seulement ça a été montré sur les réseaux sociaux. Donc, avant même les réseaux sociaux, on vivait comme ça. On le fait à longueur de journée. Il y a beaucoup... Moi, je me souviens d'une vidéo que j'ai mise sur les réseaux sociaux. À cause de ça, j'ai reçu tellement d'interpellations. Non, il ne fallait pas le faire. C'est une mauvaise image de notre... Il s'agissait des conditions d'hygiène d'un hôpital, de la place de l'hôpital Gabriel Touré. Mais il ne fallait pas avoir des gens qui, nuitamment, venaient se soulager dans des sachets juste parce qu'il n'y avait pas de toilettes. Et dans la cour, des défécations qui étaient jetées un peu partout. Donc, ce n'était pas joli à voir. Mais après avoir interpellé plusieurs fois, je me dis que la solution facile, c'est de les mettre sur les réseaux sociaux. Certes, ceux qui sont ailleurs vont dire que ah, vraiment, le Mali, il faut voir un CHU, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ça a permis d'assainir cet hôpital-là. Mmh. Et c'est un endroit dans lequel moi je vis et ça permet vraiment, ça me permet d'éviter beaucoup de maladies. Et Dieu merci. Il y a cet aspect. Il y a aussi, je l'ai dit, hein, franchement, les réseaux sociaux ne constituent pas de problème. Nous venons sur les réseaux sociaux avec notre éducation et ce que nous faisons, c'est seulement les réseaux sociaux permettent d'amplifier ça. C'est donc une opportunité que les institutions internationales comprennent qu'attention, au Mali, il y a assez de corruption parce que à longueur de journée, nous voyons sur les réseaux sociaux un policier qui prend de l'argent et donc qui prennent des mesures appropriées pour obliger nos autorités vraiment à lutter contre le phénomène. Que l'opinion nationale internationale comprenne aujourd'hui qu'au Mali, qu'il y a des violeurs. Et si à travers les réseaux sociaux, nous arrivons vraiment à nous exposer, mais si cela peut permettre vraiment au gouvernement de prendre conscience et à nos partenaires de prendre conscience, d'œuvrer pour que cela puisse cesser, je pense que c'est une très bonne chose. Encore une fois de plus, ce n'est pas les réseaux sociaux qui sont en cause pour moi, mais c'est l'utilisation que nous en faisons. Et croyez-moi, ces réseaux sociaux, avec ces réseaux sociaux, on arrive à régler tellement de choses. Je l'ai souvent dit que si nous arrivons à faire accéder le maximum de Maliens aux réseaux sociaux, on n'aura même pas besoin d'une opposition. C'est-à-dire que tout va se régler automatiquement. Le policier dans la circulation va faire énormément attention. L'agent à la mairie, en voulant prendre de l'argent, va réfléchir deux fois. Et il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup diminuer. Mais seulement, encore une fois, il faut sincèrement que nous revoyons l'éducation de nos enfants, l'éducation dans nos écoles. Et c'est très important.
Est-ce qu'on peut parler d'incivisme à ce niveau alors?
Bien sûr. C'est-à-dire, c'est comme ça, au fait. Ce n'est pas les réseaux sociaux. Il y a de l'incivisme, bien entendu, mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui amènent ces incivismes-là. Le réseau social permet juste de le montrer. Et si il y avait des dispositions prises, peut-être pour mieux expliquer, parce que franchement, moi, je suis allé à l'école, j'utilise ces réseaux sociaux, et je fais beaucoup de choses, mais je ne sais même pas les risques que je prends. Donc, il faut qu'on me l'explique, qu'on dise que, attention, l'outil que tu as en main peut faire ceci, peut faire cela. Et quand tu feras cela, voilà les sanctions auxquelles il n'y a pas de débat. Nous avons une télévision nationale, nous avons beaucoup de... Même sur ses propres réseaux sociaux, il faut vraiment qu'on communique, qu'on explique suffisamment aux gens qu'on ne peut pas tout mettre dessus. Et je pense que comme ça, l'incivisme sur les réseaux sociaux va diminuer. Et il y a beaucoup de choses également, beaucoup de dérives auxquelles on pourrait mettre fin.
D'accord. Et vous, M. Diko, êtes-vous d'accord avec M. Conté par
rapport
à ça?
Oui, en fait, contrairement à ceux qui pensent, nous disons exactement la même chose qu'elle disait qu'elle n'était pas d'accord. Simplement, ce que je dis, souvent, il y a l'effet escompté qui n'est pas là. Certes, quand on véhicule une vidéo pornographique, ils ne l'ont pas fait dans un but éducatif, contrairement à votre action. Si vous faites une vidéo, vous diffusez sur les réseaux sociaux, toutes les plateformes que vous voulez, dans le but de sensibiliser, d'aider la prise de conscience, d'accord. Parce que là, c'est déjà encadré, c'est planifié, c'est pensé et c'est conçu comme tel. Mais lorsque, d'abord, vous faites un délit, c'est un viol, c'est un délit. Et ensuite, en dehors de ce délit-là, vous montrez le visage de la personne, là, c'est un double délit. Vous êtes à côté
c'est
du juriste.
Ça,
non, mais c'est vrai. Et ensuite, donc, c'est ce que moi, je dénonce.
Ok.
Ok. Oui. Je pense que utiliser les réseaux sociaux pour dire que, bon, il y a des viols au Mali, qu'on en parle tout le temps, ce n'est pas un problème. Parler, c'est une bonne chose, parce que c'est dans la discussion que j'ai eu d'idées. Simplement, j'ai dit, il y a des choses qu'il ne faut pas faire comme ça. Il y a un besoin d'encadrement. Il faut savoir qu'est-ce qu'on met et comment cela se construit. Sinon, interdire n'est pas forcément la solution, parce que tout ce qui est interdit à l'homme l'attire. Peut-être si on avait dit à Adam et à Ève qu'ils étaient libres d'utiliser les fruits, peut-être qu'ils n'allaient pas l'utiliser et qu'on n'allait pas être dans ce bas monde-là. Enfin, je le dis. Mais en tout cas, ce qui est sûr, l'homme est toujours tenté. Voilà, c'est ça. En tout cas, l'homme est toujours tenté par ce qui lui est interdit. Au contraire, il faut aller aider les autres à aller vers les réseaux sociaux. Mais non plus, il ne faut pas confondre un activisme virtuel avec un activisme réel dans la société. Moi, les discussions que je vois sur Internet, je me dis, mais c'est très intéressant ça. Mais après, vous dites aux gens, demain, on va aller à tel niveau, on va se voir physiquement pour mettre en œuvre le quart de ce que vous avez proposé.
Oui.
Vous serez surpris, vous verrez peut-être une dizaine de personnes. Peut-être que ça va mobiliser lorsqu'ils sentent que bon, là, on a atteint un certain pic et que le retour n'est plus possible. Quand il y a une menace réelle, on sait que vraiment, là, il y a un point de non-retour. Dans ce cas-là, les gens acceptent de basculer de la virtualité à la réalité.
D'accord. Alors, M. Dakono, est-ce qu'on peut réellement réglementer ce secteur-là?
Je voudrais juste attirer votre attention sur un fait,
okay.
L'amalgame que j'ai eu l'impression qu'on a sur deux phénomènes.
Okay.
J'ai l'impression que dans le mauvais procès qu'on veut faire aux réseaux sociaux, on veut mettre la cybercriminalité là-dedans. Il y a la cybercriminalité, c'est
les
tout
brouteurs.
Ce qu'on peut faire, les brouteurs, tout ce qu'on peut faire via Internet, mais qui a, comme toutes les autres habitudes, qui est amplifié avec Facebook. C'est quelque chose qui existe depuis. On a vu récemment, il y a une personnalité publique malienne qui était au cœur d'un scandale qui nettement était l'objet de cybercriminels qui a été amplifié malheureusement pour lui et ses proches sur les réseaux sociaux. Mais donc dans cette tentative de faire le procès des réseaux sociaux, il faut qu'on évite justement de créer l'amalgame avec ce phénomène de cybercriminalité qui consiste à essayer de soutirer de l'argent ou à commettre, comme son nom l'indique, des délits et des crimes, mais via Internet. Ça existe, ce n'est pas un lien spécifique avec les réseaux sociaux qui peuvent démontrer, comme Jimmy le disait tout à l'heure, une autre facette, c'est pointer du doigt des phénomènes, des faits qui existent depuis longtemps.
D'accord. Mais voilà, pour revenir à ma question, est-ce qu'on peut réellement réglementer ces secteurs-là, avoir une main sur ce phénomène sans basculer dans la censure des autorités?
Quel phénomène?
Les dérives. Le fait de publier des vidéos censurées et voilà, des viols collectifs et tout.
Oui, je crois que je vais revenir sur un propos que j'ai tenu précédemment sur le fait que il faut qu'on fasse attention. C'est-à-dire la volonté de réguler ne doit pas nous amener à la restriction des libertés individuelles. Et on ne peut pas, dans ce cadre, le risque serait de mettre les réseaux sociaux dans le même panier que peut-être les médias, que ce soit écrit ou que ce soit de l'audiovisuel. Donc, il faut qu'il y ait un traitement dissocié par rapport à ces autres canaux de communication. Et qu'on ne perde pas à l'esprit que, fondamentalement, c'est l'objectif de ces réseaux sociaux, c'est un objectif de créer, comme son nom l'indique, des liens individuels ou groupés avec des gens sur des bases qu'on définit soi-même. Mais la régulation doit porter sur l'accès à des choses qu'on met dans le domaine public. Parce que si je décide de mettre la photo et qu'elle est partagée, ma photo sur Facebook, ça tombe un peu dans le domaine public. Maintenant, quels sont les types d'images que je suis autorisé à mettre dans le domaine public? Quelles sont les personnes? Comment accéder à ces images-là? Parce qu'il faut après aussi, si une personne en toute liberté décide de se mettre dans une position que moi, je n'accepte pas, par exemple une position intime, ben, la personne est libre. Il faut juste qu'on dise, voilà comment accéder à ce type d'image et comment c'est interdit à certaines personnes. Il ne faut pas qu'on arrive à limiter les gens. On doit rester toujours... Parce que c'est les longues luttes qui ont abouti à toutes les formes de liberté, que ce soit les libertés démocratiques, que ce soit la liberté que j'ai de mettre mon costume, que ce soit la liberté pour la dame de mettre son burqa ou l'autre de mettre son bikini et de sortir. Mais on doit juste faire en sorte que si moi, je ne veux pas voir cette image, que je ne la vois pas.
D'accord. Ok, et que pensez-vous de cela, M. Conté? Par exemple, le seul moyen que l'État a quand il y a ce genre de situation, c'est de bloquer Facebook. Pensez-vous qu'il y a d'autres moyens?
Moi, je pense qu'il y a d'autres moyens. Il faut mettre l'accent sur l'éducation. Et il est de la responsabilité de l'État de veiller à ce que tous les fils du pays soient bien éduqués. C'est-à-dire mettre le dispositif nécessaire par rapport à ça. Et que chaque citoyen, les chefs de famille que nous sommes, que vraiment nous surveillons un peu nos enfants, que nous nous occupons un peu d'eux. Et je pense que c'est mieux. Mais s'il s'agit vraiment de mettre une restriction, une forme de restriction quelconque, moi je suis sûr et certain que ça va aboutir à une censure. Et là, c'est très dangereux. Monsieur Dakono l'a dit tout à l'heure, et c'est des libertés qui ont été acquises à la suite de longues luttes. Et donc là, c'est un outil vraiment qui nous apporte pas que ces dérives-là, mais beaucoup d'autres choses. Donc, je pense qu'il faut l'encadrer un tout petit peu. Maintenant, ce que le gouvernement, les autorités peuvent faire, et Dakono, il en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire si je ne veux pas avoir quelque chose, qu'on mette les moyens pour que je ne puisse pas les voir, mais aussi qu'on explique ce qui est autorisé à ce qu'on peut mettre et ce qu'on ne peut pas mettre. Qu'on mette beaucoup de la sensibilisation sur cet aspect-là. Vous savez, Madame Togola, il y a chaque fois, le problème, ce sont ces mêmes autorités. Et ça arrive à leur adversaire et ça leur plaît. Ils disent absolument rien. Ils laissent passer. Des jeunes rappeurs souvent qui sortent avec des machettes, qui racontent des histoires, on les voit, on laisse passer, on dit absolument rien. Maintenant, lorsque ça arrive à l'heure de leurs proches, on crie au scandale. Alors le peuple n'est pas dupe. Les autres aussi seront là pour rappeler chaque fois, attention, ça n'a pas commencé par moi. Un simple citoyen a été victime de ça, vous n'avez rien dit. Maintenant que ça arrive à vous, donc il faut franchement que on prenne des dispositions pour beaucoup sensibiliser, surtout sensibiliser. Et au lieu d'empêcher les gens à accéder à ces réseaux sociaux, il faut les inciter à aller vers, mais tout en leur expliquant clairement ce qui est convenable d'y faire et ce qu'il ne faut pas faire.
D'accord. Alors, M. Guindo, qu'avez-vous ajouté par rapport aux solutions?
Bon, par rapport aux solutions, je vais revenir toujours à la sensibilisation. Regardez, par exemple, l'année dernière, lors de l'attentat du camp du Mokagao, les images des cadavres déchiquetés ont circulé sur les médias sociaux. Mais en Europe, vous ne verrez jamais la photo d'une victime sur les médias sociaux. Pas parce que l'État arrive à bloquer les images, c'est parce que, comme Kant l'a dit, les utilisateurs ont été sensibilisés à ne pas utiliser, publier des messages et des images choquantes. Moi, j'ai eu la chance d'être formé sur ça. Moi, je ne publie jamais la photo d'une victime, que ce soit d'un accident ou d'un attentat. Donc, comme il a dit, il faut aller vers l'information, la sensibilisation. Par exemple, dans nos écoles aujourd'hui, les enfants prennent 200 francs de forfait tout juste pour poster une photo de mariage ou de groupe. Mais ils ne savent pas que peut-être avec ces médias sociaux, ils peuvent faire des groupes d'études, apprendre les choses, aller sur des sites. Tout ça, ça dit qu'il faut aller à l'éducation et ça, c'est la première mission de l'État. Maintenant, par rapport à ce qui est quelque chose que Kant a dit, je suis tout à fait d'accord. Au fait, au Mali, quand c'est les autres, on veut que la loi soit appliquée dans sa rigueur. Mais quand c'est nous, regardez, quand la presse, par exemple, publie une information sur l'armée malienne, ils disent non, c'est une information classée secret défense. Mais quand eux-mêmes veulent faire de la publicité, c'est eux-mêmes qui disent à la télé, on vient d'acquérir 10 hélicoptères Apache, 20 hélicoptères et Cobra. Donc ce n'est plus secret défense quand ils veulent faire de la propagande. Donc c'est ça au fait. Quand un adversaire est humilié, ils sautent sur ça. On a vu, on a même voulu faire la comparaison entre ce ministre et l'affaire entre guillemets d'Étienne Fakaba. Quand la vidéo a circulé, il n'y a pas eu tout ce tapage là autour. Au contraire, on a continué à enfoncer le monsieur. Mais quand c'est le ministre, la police a fait un communiqué, ils ont des communiqués sont sortis pour dire que non, ça peut arriver à tout le monde, donc il ne faudrait pas partager, il ne faut pas humilier le ministre. Mais de l'autre côté, on n'a pas dit aux gens non, il ne faut pas l'humilier, c'est un Malien, il peut. Donc c'est ça quoi. C'est...
Ok. Alors, M. Diego, un mot de la fin avant de boucler ce débat.
Alors, un mot de la fin, c'est qu'il faut encadrer les réseaux sociaux, il faut vulgariser l'usage des réseaux sociaux, mais un usage en fait éducatif. Il faut faire en sorte que les jeunes puissent s'exprimer et que les réseaux sociaux restent canaux d'expression de la jeunesse. Et puis, bon, de toute façon, ce n'est pas seulement les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Nous, on est même plus jeunes. Mais bon, même si on paraît jeune, on est plus jeune. En tout cas, voilà, faire en sorte que tout le monde puisse l'utiliser, mais dans un cadre, en tout cas, utilitaire.
Merci, cela met fin à ce débat sur les réseaux sociaux. Un grand merci à nos invités, Dr Brema Elidiko, sociologue, professeur à l'Université du Mali, Baba Dakono, juriste, chercheur, Jimmy Conté, activiste et membre de l'association Globale Santé Solidarité, Abdoulaye Guindo, journaliste et blogueur. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde Salim Djouhara. La régie vidéo est assurée par Gagné Conté. C'est une réalisation de Moumen Sende.